Voilà, je vous extrais de votre silence. Content de vous retrouver. J'étais venu il y a quelques années, je ne sais plus il y a combien de temps, j'étais bien calmé. 3 ou 4 ans, je ne sais plus.
4 ans, oui.
Hein, voilà, à notre âme du lot. Alors, me présenter, c'est Philippe Le Pivin, un nom breton qui vient de Toulon. On appelle ça des Kermokos chez nous. Le moko étant toulonnais et breton, parce que je suis né, je suis de parents bretons, né à Toulon. Ker en breton, ça veut dire la maison. Voilà. Né à Toulon, et je suis en paroisse sur Toulon, à la presqu'île de Gien. Pas Gien la porcelaine, mais Gien l'embarcadère pour Porquerolles. Donc assis à mon presbytère, ils sont venus chez moi, sur mon bureau, je vois la mer en face de moi. Ici, c'est les montagnes. Voilà, donc on s'est connus avec Elisabeth et Jean-Marie, parce que j'étais responsable diocésain de la pastorale de la santé jusqu'à cette année. Mission que j'ai arrêtée pour raison de santé, je vais bien, hein, je vous rassure. Voilà, et donc je me reconcentre sur la paroisse où il y a un hôpital aussi. Un hôpital, j'ai des gars pensés qui sont venus chez moi parce que c'est un hôpital qui fait de la rééducation fonctionnelle, surtout après des traumas graves et des paras et tétraplégiques. Hein. Voilà, donc j'en ai eu régulièrement, il y en a qui viennent de Gap. Voilà, donc on m'a demandé de vous parler du corps dans les sacrements. Donc, le Père Jean-Marie a très bien introduit. Donc, je m'inscris dans la suite. Alors, vous avez le plan que je vais essayer de suivre. En introduction, je vais essayer de situer le sujet avec quelques réflexions générales, comme toute introduction. Tout d'abord, donc c'était le corps dans les sacrements que j'ai reformulé, le corps à corps dans les sacrements, que ça a été complètement introduit avec la méditation de Jean-Marie. Alors ce que nous entendons habituellement par corps, nous sommes des occidentaux du 21e siècle, un corps pour nous c'est un squelette entouré de chair, animé de vie, quelque chose d'un peu encombrant, qu'on dissocie facilement de l'âme, voilà, une espèce d'enveloppe dont on s'échappe à un moment ou à un autre, et qu'on retrouvera à la fin d'un temps dont on ne sait pas trop quand il arrivera et de quelle manière, on ne sait pas trop non plus. Voilà, pour le corps, du moins tel que ça résonne dans notre culture occidentale de manière assez commune, et en plus, oui, ce qui a été souligné en filigrane, c'est que c'est vrai que les chrétiens, avec une quête spirituelle, souvent on trouve le corps un peu encombrant, on a eu un passif historique dans notre église en France avec le jansénisme qui nous a un peu fâchés avec le corps, et c'est encore assez récent, hein. Du coup on a du mal à vivre cette réconciliation, donc voilà, on prend une distanciation avec le corps, c'est quasi instinctif. Pour les sacrements, moi, je suis né en 53 et je me souviens de la formule magique que nous avons apprise sur les sacrements, un signe sensible qui produit la grâce qu'il signifie, non, signe sensible institué par notre Seigneur Jésus-Christ qui produit la grâce qu'il signifie, et donc de décortiquer la chose en disant il y a une parole, un geste, la grâce, alors on nous déterminait l'eau c'est la vie, ça purifie, la parole, et voilà, et on nous disait paf, voilà ce que ça produit, et on analysait qu'est-ce qu'il faut pour recevoir et qu'est-ce qu'il faut pour donner, donc quand c'est licite, quand c'est valide, etc. Toute la théologie était un peu articulée autour de ça. On est allé un petit peu plus loin en progressant, en disant que le sacrement, il y en a 7, c'est un sacrement dans l'Église, qui est sacrement du Christ, qui est sacrement du Père, et ainsi affirmer que, à juste titre, que les sacrements sont dans notre vie des actes du Christ. Ce qui a été médité, ces actes qui touchent un sourd bègue, qui touche un lépreux, ces actes se continuent dans l'aujourd'hui de nos vies, entre autres par les gestes sacramentels. Voilà, si vous voulez, à peu près le bagage avec lequel nous partons quand on aborde ce thème du corps, du thème du corps dans les sacrements. Alors, je ne vais pas faire une méditation, mais simplement vous relire un autre texte, toujours de Marc. On ne s'était pas consulté, mais c'est pareil, j'ai pris Marc aussi. Un texte que je prends, vous allez voir pourquoi. Alors, je ne vais pas méditer tout le texte, simplement souligner un point. C'est dans Marc, chapitre 5, verset 25-34. Or, une femme atteinte d'un flux de sang depuis 12 années, qui avait beaucoup souffert du fait de nombreux médecins, y avait dépensé tout son avoir sans aucun profit, mais allaient plutôt de mal en pis, avaient entendu parler de Jésus. Venant par derrière, dans la foule, elle toucha son manteau. Car elle se disait, si je touche au moins ses vêtements, je serai sauvée. Et aussitôt, la source d'où elle perdait son sang, qu'elle perdait le sang, fut tarie. Et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son infirmité. Et aussitôt, Jésus eut conscience de la force qui était sortie de lui. Et s'étant retourné dans la foule, il disait, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui disaient, « Tu vois la foule qui te presse de tous côtés, et tu dis, « Qui m'a touché ?» Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. Alors la femme, craintive et tremblante, sachant bien ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Il lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton infirmité. » Alors, simplement ce texte pour noter qu'à travers ce toucher physique, une main qui touche un vêtement, alors avec aussi la symbolique du vêtement dans la Bible, hein, Jésus à qui on retire la tunique, Élie qui donne son manteau à Élisée pour lui transmettre son charisme de prophétisme, le vêtement c'est plus qu'un tissu, ça rejoint la personne, ça dit la personne. À travers ce toucher tactile, c'est une rencontre de deux personnes qui est en jeu. Elle va toucher pour être sauvée, et Jésus prend conscience de la force qui sort de lui. Et ce qui est en jeu, c'est un flux de sang. Le sang, dans la symbolique biblique, c'est la vie. C'est une vie qui s'échappe. Ce qui est en jeu, au cœur se toucher, c'est la vie. Une vie qui est donnée dans sa source et qui est accueillie au cœur d'une perte. Ce que je veux souligner à travers ce geste, dont on a vu que les sacrements en sont prolongement, comme tous les gestes guérisseurs du Christ, c'est qu'au-delà du corps à corps, tel que nous l'entendons, ce toucher physique, il y a une rencontre de personne à personne. Et dès lors, c'est mon troisième point de mon introduction, qu'est-ce que le corps d'un point de vue biblique ? Alors, on a une première approche qu'on peut faire d'ordre philosophique, c'est que souvent, dans notre culture moderne, on situe le corps au niveau de l'avoir. Hein, c'est tout ce qui sous-tend le débat de bioéthique dans le rapport au corps. Si de l'avoir, il m'appartient et j'en fais ce que je veux. Sauf que, d'un point de vue philosophique, le corps est de l'ordre de l'être. Je suis un corps et non pas j'ai un corps. Dès lors, on sent, on pressent que toucher le corps, c'est toucher la personne. Le corps humain n'est tel parce qu'il a ce qu'on appelle en philosophie une corporéité. La corporéité, ce qui fait la spécificité d'un corps humain, c'est une présence d'une âme humaine qui l'anime, qui lui donne vie et qui transparaît dans le corps. C'est tellement vrai qu'un visage dit quelque chose de ce qu'on ressent, de ce qu'on vit, de notre intimité. C'est au-delà du simple physique. Ce que pressent la philosophie, la Bible le dit de manière culturelle. Alors je vous lis tout simplement, parce que je trouve que c'est très très bien dit, il y a dans le vocabulaire de théologie biblique, alors c'est tout à fait à portée de tout le monde, c'est un truc que vous pouvez avoir pour vous familiariser avec l'environnement biblique, c'est, vous avez un mot, corps, vous allez regarder dans le vocabulaire, c'est quelqu'un qui ne fait pas plus que ça, et qu'on consulte, comme on consulte un dictionnaire Larousse, voilà. Et corps, vous définissez ce que c'est que le corps au niveau biblique, et puis après on vous donne la thématique avec des références bibliques. C'est un outil qui est très très utile et abordable par tout le monde. Donc voilà ce que dit qu'on dit habituellement le VTB, vocabulaire de théologie biblique. À la différence d'une conception fort répandue, le corps n'est pas simplement un ensemble de chair et d'os que l'homme possède pour le temps de son existence terrestre, dont il est dépouillé par la mort, qu'il reprend enfin au jour de la résurrection. il y a une dignité bien supérieure que Paul a mise en relief dans sa théologie. Le corps ne ramène pas seulement à l'unité des membres qui le constituent, il exprime la personne en ses situations majeures, état naturel et pécheur, consécration en Christ, vie glorieuse. En fait, en termes bibliques, le corps, comme la chair, qui est plus ou moins synonyme, dit la personne dans son entièreté, mais dans son aspect visible, qui se donne au monde, qui est en relation au monde, qui est inscrit dans l'histoire des hommes. On verra ça quand on verra le Verbe s'est fait chair. C'est-à-dire qu'il a pris un corps des os et de la viande, excusez-moi. Ce qu'il a pris une humanité, sinon on est mal, nous. Ouais. Il a pris une humanité. Il s'est fait chair. Si le corps dit toute la personne dans sa visibilité, qui se donne à voir, qui s'inscrit dans l'histoire, et le cœur dit toute la personne dans son intériorité et dans son aspect source de vie jaillissante. Donc, vous voyez, dans le sujet qui est proposé, je vous ai dit un corps à corps dans les sacrements, dans le toucher sacramentel, ces deux personnes qui sont offertes en contact. En contact pourquoi? Pour un enjeu de vie. Et on retrouve, c'est mon quatrième point, cette phrase de Jésus, Je suis venu pour qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. Jean 10, 10. Je suis venu pour qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. Alors si vous voulez, d'un côté, vous avez un besoin de vie, et de l'autre, vous avez celui qui est la vie et qui donne la vie. Et la jonction se fait non pas de manière exclusive, mais de manière habituelle, par un contact, par un toucher. Et pour nous, ce toucher, entre autres, c'est le sacrement. Ça n'épuise pas tous les moyens de toucher, mais c'est l'objet de notre rencontre. D'où les trois parties que je vous propose, hein, le désir de vie qui habite l'homme, ensuite le Christ source de vie pour l'homme, et après le sacrement, contact de vie donné et reçu. Alors, vous allez voir que je vais partir de manière assez large, mais je trouve, enfin personnellement, vous voyez, on a dans notre approche latine occidentale, comme souvent dans ce sujet, une approche assez fermée et étriquée, quoi. On décortique le sacrement. Les orientaux, quand ils parlent de sacrement, ils parlent des mystères. On célèbre les mystères. Les mystères qui sont autant de lieux dans lesquels le mystère dont parle Paul, hein, ce dessein bienveillant, éternel de la volonté du Père, ce dessein, eh bien, vient à notre rencontre à travers ces célébrations. C'est un peu ça, si vous voulez, qui sous-tend ce que je vais vous dire, c'est que dans les sacrements, ce qui se joue, c'est cette tendresse de Dieu, qui est source de vie, du Père, qui me rejoint, moi, son enfant. Son enfant qui est sans cesse besoin d'être enfanté à la vie. Par la source. Et ça se fait par le Fils éternel du Père dans lequel je suis appelé à devenir enfant. Voilà, le sacrement acte du Christ. Ça va? On peut continuer? Alors, le désir de vie de l'homme. Hein, qu'est-ce que l'homme? Vaste question, quelle est sa vocation? Alors, je vous préviens, je ne suis pas exégète, hein, donc je parle sous contrôle. Si je dis des conneries, tu me corriges. Voilà, alors je pars de la Genèse et je vais essayer de vous montrer un peu le désir de vie profond qui est en nous. Et qu'est-ce que c'est que ce désir de vie? Qu'est-ce qui nous habite? On pourrait traduire ça autrement. C'est Adine que j'avais fait ça, je crois, sur la notion du spirituel. Qu'est-ce que le spirituel? Ça rejoint tout ça. Ouais. Alors, une dynamique de vie au plus profond de l'homme, je vais vous prendre la Genèse, puisque tout est dedans. Alors, tout de suite, je vous resitue les 11 premiers chapitres de la Genèse, c'est pas de l'histoire, c'est du mythe. Alors, le mythe, c'est-à-dire que les Occidentaux ont une fâcheuse, comme ils ont tout réduit à la raison, ils ont oublié une faculté supérieure que l'intelligence, non pas rationnelle, mais cette faculté du spirituel, de connaissance des réalités supérieures par le symbole, ils ont oublié ce que c'était que le mythe. Le mythe, si vous voulez, c'est un ensemble de, c'est un récit articulé de symboles, pour faire court, qui nous donne accès à une réalité plus profonde à laquelle la simple raison n'a pas accès. Donc ça nous dit un réel beaucoup plus profond. Alors que pour nous, occidentaux, le mythe, c'est irréel. Non, le mythe nous dit le plus réel à laquelle, auquel la raison par elle-même n'a pas accès. Ça va? Alors, dans ce récit, vous avez deux récits de création. Le premier, donc, je parle dans la chronologie biblique, le premier nous parle de la création en 7 jours. On va réentendre ce texte dans la veillée, la vigile pascale, qui est un très 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 beau texte, extrêmement riche. Mais je prends uniquement la deuxième moitié du sixième jour. C'est au Genèse 1, versets 26-28. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, comme notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les bestiaux, toutes les bêtes sauvages et toutes les bestioles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le créa, homme et femme, il les créa. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez, emplissez la terre et soumettez-la. Dominez les poissons, etc. Alors tout de suite, une remarque de vocabulaire. C'est amusant que j'étais avant d'être agien, j'étais en Afrique. En Afrique, et l'homme, c'est l'homme. Alors c'est le truc classique, l'homme a été créé en premier, et puis la femme derrière. La femme a péché en premier, et puis l'entrée, l'homme. Hein, vision machiste des choses. Alors on s'en sort en se disant, les femmes disent, ouais, en fait, il a fait un brouillon, puis après, il s'est amélioré. Il a vu ce qu'il fallait parfaire. Et réciproquement, les hommes disent, il a fait le parfait, puis après, c'est l'air se dégradant. Alors, sauf que ça pêche par rapport au terme hébreu. Dieu crée l'humain. Le problème qu'on a en français, c'est qu'on n'a qu'un seul mot qui dit homme au neutre et au masculin. Et ça nous piège. Donc, Dieu crée l'humain. Et à l'intérieur de l'humain, il est fait homme et femme, masculin et féminin. C'est juste une petite remarque. Alors simplement, je vais attirer votre attention sur un bug. Dieu fait un bug. Son intention, c'est faisons l'homme à notre image et ressemblance. Il fait quoi? Il oublie une partie. Il oublie la ressemblance. Et il fit l'homme à son image. Point. Vous voyez, ce manque est en fait un appel et une vocation. Un devenir. L'homme a à devenir ressemblance. Alors, pour prendre une comparaison, vous faire comprendre simplement les choses, quand à la naissance, on est tous des êtres humains, nous avons toute cette nature humaine en nous, et nous sommes appelés à le devenir par les actes que nous posons. Nous avons des actes qui nous humanisent et des actes qui nous déshumanisent. On appelle ça mûrir. Voilà. Eh bien, c'est un peu ça que nous dit la Bible. Elle nous dit, voilà, Dieu nous dit, je te fais à mon image. Maintenant, il faut devenir ressemblance, il faut que tu t'engages. Alors, on peut se dire, mais qu'est-ce que ça veut dire être à l'image? Vous voyez, on a un tableau, là, on sent qu'on a fait, on a reproduit de manière moderne la scène de Léonard de Vinci. C'est pas ça. Être à l'image, si vous allez dans Genèse 5, vous verrez que quand on parle des fils de Seth, d'Adam, on parle de à l'image, c'est fils. Être à l'image, c'est être fils, être enfant. Être enfant, vos enfants sont vos enfants et nous sommes enfants de nos parents parce qu'ils nous ont communiqué non pas quelque chose qui est à l'image d'un modèle, en fait, nous ont communiqué la vie qui était la leur. La même nature humaine. Ils ont donné la nature humaine, la vie humaine. Ce que Pierre dira dans une de ses lettres, il nous a rendus participants de la nature divine. Il faut entendre les mots. Bon, c'est fort. Et Jean, à la fin de sa vie, il était dans l'émerveillement tout le temps, et il disait à la fin, dans une de ses lettres, ce qui est merveilleux, c'est qu'on soit appelé enfant de Dieu, mais ce qui est encore plus merveilleux, encore plus merveilleux, c'est qu'on soit effectivement. Ce n'est pas simplement une dénomination extérieure. Donc quand on dit Dieu nous crée à son image, il nous crée enfant. Alors je vais peut-être vous choquer. Le baptême ne nous rend pas au sens strict enfant de Dieu. Nous le sommes déjà. Toutes les créatures humaines sont enfants de Dieu. Si vous relisez Romains 6, le baptême nous greffe sur le Christ pour pouvoir justement vivre notre vocation d'enfant, lui qui est le Fils unique. Il nous crée donc en devenir, donc dans cette nature humaine, il nous crée à son image enfant. Et dès lors, pensez donc que le devenir de l'homme, devenir ressemblance, c'est un appel à la déification. Ce que les orientaux n'ont eu de cesse de dire et ne cessent de dire encore, c'est que notre vocation première, fondamentale, c'est la déification. La transfiguration. Alors comment? Dieu dit « faisons ». Alors il y a plusieurs interprétations. Aucune interprétation ne s'exclut l'une l'autre, elles se complètent mutuellement, comme souvent dans la parole de Dieu, qui dépasse tout ce qu'on en peut dire. Mais vous avez une première explication, une relecture chrétienne, c'est la Trinité qui fait un petit colloque. Lecture juive, qu'on a aussi chez nous, c'est de dire ben, il dialogue avec les anges. Une autre lecture juive qu'on a eue au début de l'histoire de l'Église et qu'on retrouve maintenant chez certains exégètes modernes, c'est Dieu dialogue avec l'homme. Alors vous allez dire, mais il n'est pas créé. Sauf que ce n'est pas de la chronologie, ce n'est pas de l'histoire. Donc voilà, c'est Dieu qui dialogue avec l'homme. Et j'aime cette interprétation, qui encore une fois, n'exclut pas les autres. Dieu rentre en dialogue avec l'homme et lui dit, j'ai besoin de toi pour achever ma création. Il rend l'homme co-créateur. Et c'est un dialogue. Il leur dit, un peu plus bas. Dialogue entre Dieu et l'homme, un dialogue auquel l'homme est convoqué par Dieu, c'est ce qu'on appelle l'alliance. Dieu fait alliance avec l'homme pour l'inviter à achever la création. Donc, si vous voulez, au plus profond de lui-même, l'homme est habité par un désir qui le dépasse, un désir de divinisation. Un désir de devenir enfant, il est travaillé par cette vie. Le désir de vie, il est là, profondément. Et c'est un désir qui ne peut se réaliser que, et c'est dans les gènes de l'homme, de par sa création, qui ne peut se réaliser que par le dialogue. Dialogue et donc communion. Et donc fécondité. C'est vrai pour l'homme dans son rapport avec Dieu, mais à l'intérieur de l'humain, au cœur de cette alliance, il les fait homme et femme. Et si on prolonge avec le deuxième récit de création, alors du coup, ouais, je fais ça un peu, j'ai écrit mes trucs, mais je fais un peu comme ça me vient, excusez-moi, vous me pardonnerez, mais ça, c'est dedans. Hein. Vous savez, on dit, il a pris un côté là. Il a pris un côté, puis après c'est pareil. Alors c'est la même chose, hein. Il prend non pas un côté, une côte, pardon, mais il prend un côté de l'humain. Donc il le campe en face à face, et ça devient homme et femme. Voilà. Face à face, dans la face c'est deux personnes. Hein. On ne peut pas voir la face de Dieu sans mourir, on ne peut pas voir la personne de Dieu sans mourir. Face à face c'est l'attitude du dialogue. Voilà. Dieu, à l'intérieur de l'humain, faites deux côtés, deux facettes. Vous êtes dans les montagnes, un versant nord, un versant sud de la montagne. Il faut les deux pour faire la montagne. Et ce qui permettra de redevenir une seule chair, c'est d'aller l'un vers l'autre, c'est le dialogue. Voilà, communion, fécondité. Vous voyez, ce qui structure profondément l'être humain, c'est cette soif de dialogue, d'amour, qui ouvre à une communion et par là une fécondité. Et c'est un chemin de ressemblance avec Dieu, et donc de divinisation. Et c'est vrai dans les trois relations, hein, je vous dis, par rapport à Dieu, par rapport à son frère et par rapport à nous-mêmes. Parce que nous sommes appelés à nous voir tels que nous sommes, au-delà de l'image que nous en avons. Nous sommes appelés à faire alliance avec nous-mêmes aussi. Voilà profondément la vocation humaine. Et pour cela, deuxième récit de création, que fait-il? Alors, je vous lis, c'est au chapitre 2, hein, au verset 7. Alors le Seigneur, Dieu, modela l'homme avec la glaise du sol et il insuffla dans ses narines une haleine de vie, un roi, et l'homme devint un être vivant. Alors, le terme hébreu a plusieurs niveaux de signification, dont, pareil, qui se complètent l'un l'autre, hein, et ça ne s'exclut pas. Dont l'esprit se souffle, c'est l'esprit de Dieu qui plane dans le premier récit au-dessus de la création, hein, qui plane sur les eaux et qui accompagne la création. L'homme, il prend de la glaise et il insuffle. Le mouvement de la symbolique du souffle par les narines, c'est une symbolique quand on insuffle de l'air, ça porte de l'oxygène dans tout notre corps à travers le sang. C'est une logique, une dynamique d'envahissement. Et en même temps, il y a un expire, ça retourne à la source. Dieu nous donne son esprit, qui est un esprit d'amour, le dialogue du Père et du Fils, pour vivre cette alliance qu'il nous propose de vivre avec lui. Et cet esprit doit peu à peu nous envahir. Dans toute notre personne, jusque dans notre corps. Est-ce que vous savez comment Paul, quand il écrit aux Corinthiens, appelle le corps ressuscité? Comment il le détermine? Qu'est-ce qu'il dit? Un corps? Et oui, il parle de corps spirituel. Ouais, spirituel, saisi par l'esprit. Ouais, on trouve le fondement là. Alors voilà, cette vocation de l'homme, c'est d'être saisi par l'Esprit de Dieu pour ouvrir un dialogue d'amour avec le Père qui peu à peu le fasse passer de l'image à la ressemblance. C'est un chemin de lumière, de transfiguration. Et Jean, quand il parle de la venue de Jésus, il parle de la lumière qui vient dans les ténèbres. C'est un combat, un passage des ténèbres à la lumière, comme toute la création. C'est une ouverture à la lumière, à la vie. Mais comprenez qu'en même temps, au cœur de l'humain, il y a comme une faille. Cet esprit vient dans la glaise. La glaise, sans l'esprit, elle est morte. Mais c'est l'esprit qui rend la glaise vivante. Et cette dynamique profonde de vie qu'on a en nous peut être saisie ou par la glaise ou par l'esprit. C'est là que l'homme a à s'engager, à choisir. Ce qu'on appelle les deux voies qu'on retrouve régulièrement dans la parole de Dieu. Choisis l'un ou l'autre, la voie du bonheur, la voie du malheur, la voie de la vie, la voie de la mort. Voilà, choisis. Paul, quand il écrit aux Galates, et c'est repris dans sa lettre aux Romains, nous parle de la vie selon la chair ou la vie selon l'esprit. La vie selon la chair, ce n'est pas une question de sexualité, c'est la vie de l'humain qui se refuse à Dieu, qui se refuse à l'esprit. Et on voit que ça conduit à la mort. Et la vie sans l'esprit, c'est l'humain qui se laisse dominer, qui se laisse transfigurer par une source qui vient d'ailleurs, il n'est pas sa propre source, et bien ça conduit à la vie. Ça va?
Excusez-moi, j'ai raté la fin. La vie sans l'esprit...
La vie sans l'esprit, pardon, ça conduit à la mort. Hein, Paul dira, la glaise ou la chair, ça servira au même. Il parle de la vie sans la chair. Et c'est toutes les œuvres de mort qu'il écrit derrière. Il parle dans la vie de l'esprit et c'est toute la vie. Hein, la paix, la joie, la longanimité, la patience, etc. Ça va? Donc voilà, si vous voulez, la soif de vie de l'homme, elle est là. Une soif de transfiguration, une soif de dialogue, de communion, et qui ouvre à une fécondité. Il les bénit et leur dit, fructifiez, multipliez, emplissez. C'est la vie dans toutes ses dimensions, qualité, quantité et espace et temps. Voilà. Voilà profondément la vocation de l'homme, et voilà la soif qu'il habite, une soif infinie. Ce que disait Pascal, que reprenant Maurice Zindel, l'homme passe l'homme. L'homme est plus grand par son désir que par ce qu'il est. Un dernier point que je voulais souligner, qui me paraît vraiment important, ce désir de vie traverse l'homme dans tout son être. Dans tout son être. Alors nous sommes habitués à un schéma binaire. On dit communément, l'homme est fait de corps et d'âme, point barre. C'est assez unique dans toute l'histoire de l'humain, de l'humanité. C'est occidental. Mais la véritable tradition biblique qui est commune à pratiquement toutes les cultures, c'est que l'homme est fait de corps, d'âme et d'intelligence unifiés par le cœur. Alors je m'explique, corps, on voit bien de ce dont il s'agit, âme aussi, avec la raison, intelligence moins. Parce qu'on est habitué à réduire l'intelligence à la raison. Pour la Bible, alors je vous lis quand même un texte de la lettre aux Hébreux. Frères, elle est vivante, la parole de Dieu, énergique et plus coupante qu'une épée à deux tranchants. Elle va jusqu'au point de partage de l'âme et de l'esprit, l'âme ou intelligence. On traduit intelligence, intellect ou esprit suivant les traductions. Des jointures et des moelles, elle juge des intentions et des pensées du cœur. Paul, il en parle tout le temps de ça. C'est sous-jacent. C'est commun, ça traverse toute la Bible. Alors qu'est-ce que cette intelligence? Cette intelligence, c'est cette faculté du spirituel, de la connaissance spirituelle. Et l'homme a vraiment ces trois dimensions qui sont unifiées par le cœur, qui est la source, qui est le lieu source et le lieu où Dieu habite. Alors, si vous avez tout suivi, je reprends le schéma que vous avez au dos de votre feuille, le plan, et un schéma qui vous paraît bizarre, mais qui exprime très bien. Il n'est pas de moi, donc je le dis volontiers. Alors, vous avez pas mal de cercles. D'abord, vous avez un cercle cœur qui est au centre, ça va? Vous avez sur la gauche un cercle corps. Entourant le cœur, vous avez un autre cercle âme, et vous avez un autre cercle qui dit intelligence. Et voyez que ce qui est commun à tous les trois, c'est le cœur. Le cœur traverse les trois, et qui s'entrepénètrent les uns les autres aussi, hein. Ce qui se passe dans l'intelligence rejaillit dans l'âme et dans le corps, et réciproquement, ce qu'on appelle ça, la psychosomatise, hein. Voilà, ce désir de vie traverse tout. C'est de manière neutre sur la feuille, la ligne horizontale. Dans le corps, c'est un désir. Dans l'ardeur, dans l'âme, pardon, c'est l'ardeur. Et dans l'intelligence, c'est la raison. Alors, je m'explique. La raison, c'est pas la raison qui résonne chez les anciens, chez les pères de l'Église orientaux. La raison, c'est connaître les raisons des choses, les raisons spirituelles. Savoir une lecture spirituelle au sens où, par exemple, Saint François d'Assise s'émerveille devant la création. Oui, il voyait des choses qu'on n'y voyait pas. Voilà, c'est ça, un regard spirituel, les raisons des choses. Ce que sont les choses dans le regard de Dieu. Et ça, c'est l'intelligence qui nous donne les choses, les événements. Et vous avez d'un côté, en bas, l'amour de soi qui nous tire par le bas, et de l'autre côté, l'amour de Dieu qui nous tire par le haut. Si cette dynamique de vie est saisie, par l'amour de soi, dans le corps, ça devient de la convoitise, hein, sous le désir. Dans l'âme, c'est la colère, parce que dans l'âme s'exprimera une volonté de puissance et on rentre en colère avec tout ce qui nous résiste. Et dans l'intelligence, c'est l'orgueil. L'orgueil. Me réaliser par moi-même. Si maintenant c'est saisi par l'amour de Dieu, le désir devient un élan, l'ardeur une force, hein, la constance, hein, la volonté de puissance est au service, c'est une force. Et la raison, ben, c'est l'humilité. Dans l'intelligence, c'est l'humilité. Voilà, là, vous avez vraiment, à mon sens en tout cas, tel que le conçoivent les orientaux et qui était aussi notre patrimoine occidental avant une époque. Ce qu'est profondément l'homme, habité par un désir de vie infini, tiraillé entre l'amour de soi et l'amour de Dieu. Ce que saint Augustin disait, il y a l'amour, l'homme est tiraillé entre l'amour de soi jusqu'à l'oubli de Dieu et l'amour de Dieu jusqu'à l'oubli de soi. Voilà. C'est ce que Augustin exprimait de manière assez forte. Et ce que vous avez dans l'évangile, hein, qu'on avait dimanche dernier dans l'évangile. Celui qui est sa vie, c'est-à-dire qui est sa vie, qui se veut source de vie à lui-même, hein, en ce moment pour moi, la trouvera. Oui, on retrouve tout ça. Alors, mon dernier point pour cette première partie, est-ce que jusque là ça va? Vous allez dire, je suis loin des sacrements. Hein. Ne vous inquiétez pas, on va y arriver. Hein. Faut être patient. Hein. On va aller au cœur des sacrements. Mais moi, j'estime que pour rentrer dans profondément ce que sont les sacrements, il faut vraiment se redire ça. Cette soif de vie qui nous habite, avec en même temps ce chemin d'un choix à vivre que nous engagions pour devenir ce que nous sommes, avec nos fragilités. Nos fragilités, ben, je suis tiraillé, c'est le quotidien, on a deux amours en nous, on est partagé intérieurement. La frontière entre le mal et le bien, elle n'est pas à l'extérieur de nous, entre le ténèbre et la lumière, elle passe à travers notre cœur. Ça, c'est, enfin, on est foutu pareil. Hein. Moi, en tout cas, c'est mon espérance, je pense que c'est la vôtre aussi, si on ne se confesserait pas. Voilà. Alors, je voudrais, un dernier point, vous lire ce qu'on appelle le récit de la faute originelle, ou l'origine de, j'aime bien, je préfère dire, l'origine de toute faute. Nous sommes toujours dans un récit mythique et non pas historique, je vous le rappelle. Même si ça peut déranger par rapport à... Bon, c'est dans chapitre 3. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que le Seigneur Dieu avait fait. Il dit à la femme, alors Dieu a dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. La femme répondit au serpent, nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin. Mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, sous peine de mort. Le serpent répliqua à la femme, pas du tout, vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux qui connaissent le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et séduisant à voir et qu'il était, cet arbre, désirable pour acquérir le discernement. Elle prit le de son fruit et mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle et il mangea, etc. Alors, je ne vais pas vous faire une analyse de tout le texte, mais simplement par rapport à notre propos, vous dire les points qui me paraissent intéressants. Je vous ai parlé de cette nécessité de faire alliance, hein, avec Dieu, pour avancer et aller vers la vie. Et quand on quitte l'alliance, on va vers la mort, d'accord? Alors, très court, mais pour vous, il y a un présupposé à tout cela, c'est comment on appelle Dieu dans la Bible. Il y a plein de mots pour le dire, mais il y en a deux qui reviennent tout le temps, c'est Elohim, d'une part, et ce qu'on a dit, on prononce, mais on ne devrait pas le prononcer, Yahvé. Vous savez, j'ai toujours dit le Seigneur à la place de Yahvé. Elohim. On dit, c'est Elohim, c'est Dieu créateur, et Yahvé, c'est le Dieu de l'Alliance. Alors, j'aime bien lire les rabbins, ils ont toujours, vous savez, les juifs, ils ont tout plein de questions. Et ils ont une question sur Elohim, car alors, j'ai lu ça dans un rabbin qui vit encore là, et qui dit, mais Elohim, alors dans un mot hébreu, il y a des lettres frontières qui séparent les mots des uns des autres, et vous avez les lettres matrices qui sont à l'intérieur. Il dit Elohim, quand vous prenez la première et la dernière, c'est les mêmes lettres que le mot qui dit femme enceinte. Ah ! Et maintenant vous prenez, vous savez que chez les Hébreux, les lettres ont une valeur numérique. Quand vous prenez l'addition des lettres matrices, vous avez 45 qui est le chiffre de l'homme. Le Dieu créateur est comme une femme enceinte qui enfante l'homme à la vie. Comme Jean-Marie l'a dit, les entrailles. Hein? Dieu, ça revient à travers toute la Bible. C'est ça qu'on dit être saisi de pitié, avoir des entrailles. La miséricorde, c'est le mot qui dit Dieu. Et quand dans l'évangile vous avez ça, ça veut dire quand le père du fils prodigue est remis jusqu'aux entrailles, ça veut dire que le père, ça devient la figure de Dieu, père. De même, quand le bon samaritain voit celui qui est de l'autre bord, là, il le voit et il est saisi dans ses entrailles, c'est donc Dieu. Voilà pour un premier mot. Le deuxième mot, Yahvé, alors déjà, c'est que des consonnes. Essayer de prononcer un mot où il n'y a que des consonnes, pas de voyelles, c'est imprononçable. Ça veut dire que vous ne pouvez prononcer Dieu qu'en l'écoutant dans le silence de votre cœur. Et là, il se dit à vous. Mais surtout, on s'en renvoie à la grande révélation de Dieu à Moïse sur le buisson ardent. Et c'est que Moïse, il avait commencé par vouloir libérer le peuple uniquement par ses propres forces, par sa chair, par l'esprit. Et ça a conduit à la mort. Physiquement, il y a eu la mort, et lui est recherché pour être mis à mort. Il va dans le désert, tatac, au bout de 40 ans, il se retrouve au pied du Sinaï, et Dieu le renvoie en mission. Mais il lui dit, attends, quand je vais retourner là-bas, ils vont tous me trucider, là. Qu'est-ce que je vais leur dire? Qui m'envoie, là? Parce qu'on lui avait dit, mais au nom de qui tu veux nous libérer, toi? Et Dieu révèle son nom. Alors les métaphysiciens issus de la Grèce disent, c'est une métaphysique qui dit, Dieu est Dieu, Dieu je suis l'être suprême. Pas ça du tout, dans la Bible, ça, c'est inconnu à la Bible. La traduction, là je ne vais pas argoter sur les trucs, c'est, tu leur diras que je suis celui qui sera demain, parce que je suis déjà là avec toi, comme j'étais hier avec Abraham, Isaac et Jacob. C'est le Dieu qui fait alliance et qui est fidèle. Parce qu'il est fidèle dans l'aujourd'hui de ta vie. Et si tu veux le savoir, fais mémoire de ton passé. Voilà. Donc je m'engage avec vous. Ouais, le Dieu créateur, le Dieu de l'alliance. Voilà. Bon, c'est très rapide ce que je vous dis là. Quand vous lisez le texte, le narrateur, vous avez en mémoire, le narrateur, il parle au début, celui qui raconte l'histoire, il dit... Attends, je reprends, j'ai fermé la Bible, c'est fermé toute seule. Il dit, le Seigneur, Yahvé Dieu, avait fait. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que Yahvé Dieu avait fait. Donc c'est Dieu de l'Alliance, d'accord? Le serpent, qu'est-ce qu'il dit? Il ne peut pas prononcer le mot de Dieu d'Alliance, c'est pas possible, parce qu'il est en refus d'Alliance. Il va parler quoi? Ben de Dieu, d'Elohim. Et là, tout piège est là, c'est que Ève, elle rentre dans le piège. Elle dit, Dieu a dit. Et c'est foutu. Elle se met en dehors de l'alliance. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Elle s'est retirée, vous voyez, de cette dynamique d'alliance. C'est notre péché. On se retire de l'alliance. On voit bien, quand on s'échappe à une vie d'intimité avec le Seigneur, on est beaucoup plus enclin à toutes les forces de mort qui nous habitent. Et après, tout s'enchaîne. Tout s'enchaîne. Elle voit que le fruit de l'arbre est bon à manger. Nous sommes dans quoi? La convoitise. D'accord? C'est le corps qui fout le camp. Ensuite, elle veut connaître. Alors, on dit le bien et le mal, l'arbre du bien et du mal. Certains auteurs qui travaillent à partir de l'hébreu disent c'est le chemin de l'accompli et de l'inaccompli. C'est-à-dire, l'inaccompli, je suis qu'image, déjà à accomplir, à devenir ressemblance. Il n'y a que Dieu qui connaît ce chemin pour passer de l'image à la ressemblance. Et il est à recevoir ce chemin. Prendre le fruit, connaître, avoir pouvoir. Elle prend pour avoir pouvoir. Nous sommes dans l'âme qui veut le pouvoir. Et l'âme se casse la figure et va aussi vers la mort. Et l'enjeu, c'est quoi? C'est la déification. Vous serez comme des dieux. Et là, c'est vouloir par soi-même. C'est l'auto-déification. C'est l'intelligence qui fout le camp aussi. Vous voyez? Le processus de tout péché est là. Dès que je m'écarte de l'alliance, je me trouve seul avec ma vie, la logique de la glaise. Et c'est une logique de mort qui s'installe dans tout mon être, dans son corps, dans son âme, dans son intelligence. Et là, vous avez... Si vous voulez, profondément, ce que nous sommes, notre désir de vie qui est infini, pour pouvoir se réaliser, dans ne pouvoir se faire qu'en alliance, mais dès que je m'écarte du Dieu de l'alliance, c'est les forces de la glaise, de la mort, qui peu à peu m'entraînent dans cette logique de mort. Voilà. Et le Verbe se fait chair. Il prend mon humanité là où elle est. Alors, je vous annonce déjà la suite. Il va prendre mon humanité là où elle en est, dans ce qu'elle est. Il va vivre ce chemin humain, on verra comment, dans les trois tentations, par exemple, tac, la transfiguration, le mystère pascal qu'on va célébrer. Il fait passer notre humanité de l'image à la ressemblance. D'accord ? Et les sacrements sont ces touchés de Jésus qui vont nous aider peu à peu à vivre ce passage, cette Pâque aussi. Voilà, ce sera pour cet après-midi.